patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la si complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toutes les auditrices. Bienvenue à cette dernière émission de la saison, de l'année. Ça pleure dans le studio. On va essayer de rendre ça un peu plus gai, même si notre sujet est quand même assez lourd aujourd'hui. Alors, bienvenue à la dernière émission de la Complainte du travail, une émission qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi, un organisme de défense et de promotion des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Alors, vous vous doutez qu'on s'intéresse tout au long de l'année à la question des conditions de travail des travailleurs et travailleuses atypiques et non syndiqués. Le sujet qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui est très en lien avec le temps de l'année. Alors, on sait que c'est les festivités de Noël. C'est l'épisode de l'année où on nous demande de donner généreusement à peu près à tous les banques alimentaires, la guignolée, faut lutter contre la pauvreté, les gens ont faim à Noël. On me disait récemment que les banques alimentaires sont pratiquement vides, il manque de ressources alimentaires, que les guignolées ont reçu beaucoup moins que les années précédentes, et pourtant que les demandes sont beaucoup plus nombreuses et qu'on sait d'avance que pour la période des fêtes, on ne sera pas capable de combler l'ensemble des demandes qu'on a reçues. Alors, on a choisi aujourd'hui de vous parler de lutte à la pauvreté, parce que oui, c'est une chose de donner dans le temps des fêtes, de faire en sorte que les gens, pour les festivités de Noël, aient quelque chose à manger sur la table. Mais lutter contre la pauvreté, ça doit être beaucoup plus vaste que ça et ça doit être un investissement à long terme qui se déroule pas seulement durant cette partie-ci de l'année où il y a de la neige et qu'il fait beau dehors. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de vous d'inviter Mme Lynn Marcoux. Bonjour Lynn.
Bonjour Sandy.
De la table d'action contre l'appauvrissement en Estrie. Et évidemment, comme à l'habitude, on a notre merveilleuse stagiaire qui anime aujourd'hui sa dernière émission avec nous. Bienvenue Roxane.
Bonjour.
Alors, peut-être commencer parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que lutter contre la pauvreté, ça s'est déjà fait. Hein? D'ailleurs, Lynn, est-ce que tu te souviens de l'année de l'adoption de la loi 112? C'est 2002 ou 2003?
2002, le 23 décembre 2002.
OK.
À part l'Assemblée nationale au complet, là, ça a été voté à l'unanimité.
Ce qui s'est rarement vu à l'Assemblée nationale.
C'est la première fois qu'ils votent une telle loi. Et à l'unanimité, ça ne s'est pas vu souvent.
Donc, tous les partis représenté à l'Assemblée nationale en 2002, s'était entendu pour dire qu'il fallait un plan de lutte à la pauvreté pour qu'au Québec, ça n'existe plus. 2002, ça fait maintenant 8 ans, presque 8 ans. Alors, c'est quoi le constat qu'on peut faire? Premièrement, avant de faire un constat, parlons plutôt de l'historique. Comment on en est venu à dire il faut une loi 112, il faut une loi pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale?
Bien, c'est ça. Si on part de 97-98, il y a eu des réformes à l'aide sociale. Il y a des organismes communautaires qui ont trouvé que ça n'avait pas d'allure, les réformes. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont fait une coalition qui s'appelait le Collectif pour une loi pour l'élimination de la pauvreté. Ensuite, eux, ils ont consulté en 98-99, ils ont fait une grande consultation à travers la population. Ça aussi, c'est la première fois que ça se faisait, de faire une loi avec la population. Donc, c'est eux qui disaient qu'est-ce qu'ils voulaient dans la loi. Et en 99-2000, ça a été la version finale qui a été portée, qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et il y a eu 215 000 signatures.
C'était énorme.
La plus grosse pétition que le gouvernement avait jamais reçue. Et il y avait 1600 organismes qui appuyaient. Puis c'est ça, le 13 décembre 2002, la loi a été votée à l'unanimité et ils ont mis en place le premier plan d'action.
Okay. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est, bon, tout le monde voulait de cette loi-là, tout le monde, tous nos représentants politiques, les citoyens à 200 000 personnes qui ont signé puis organisent, on s'entend que la population voulait d'une loi contre la pauvreté. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est mission accomplie?
Non, parce que la loi, elle a été mise en place, mais c'est loin d'être... Premièrement, le gouvernement ne l'applique pas comme il devrait. Et non, il y a du chemin à faire. Mais nous, le plan de la loi, c'était que en 2013, on soit une des nations industrialisées où il y aurait le moins de pauvreté. Mais c'est ça, 2013 s'en vient vite et disons qu'il y a encore du recul beaucoup. Si on regarde le premier plan d'action...
Le premier plan d'action, si je ne me trompe pas, est échelonné sur 5 ans, les 5 premières années de l'application de la loi.
Oui, mais il a été prolongé là, cette année parce que, justement, le deuxième plan n'est pas encore prêt. Donc, on dit on va se donner un an pour le même plan pour ensuite préparer le deuxième.
Fait, comment ça s'est passé, le premier plan? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Puis le bilan qu'on peut en faire?
Le bilan qu'on peut en faire un peu, c'est ça, c'est qu'il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu du progrès pour les familles, ça c'est, puis les familles monoparentales. Il y a eu des mesures de soutien aux enfants, il y a eu aussi la prime au travail. Ça a aidé énormément, les familles, sauf que les personnes seules ont été complètement oubliées. Puis c'est eux autres qui en ont le moins, parce qu'une personne seule à l'aide sociale, sans contrainte, elle a 564 par mois pour vivre. Donc, c'est impossible. Et le gouvernement, pendant 4 ans, a fait seulement des demi-indexations pour les personnes sans contrainte.
Les Donc, autres pour ont les eu punir des de ne pas être à l'emploi, de ne pas se trouver d'emploi.
C'est à peu près ça. C'est des contraintes. Là,
le coût de la vie a augmenté, mais on va... Oui, c'est vraiment ça. Le coût de la vie augmente, mais vous, on ne vous donne pas l'indexation du coût de la vie. Là.
C'est ça. Fait qu'il y a eu énormément de pertes de pouvoir d'achat. Ça les a appauvris. Il y a eu aussi, comme je dis, le salaire minimum. Bien là, dernièrement, on a eu des belles augmentations, disons. Là. Mm. Il faudrait que ça monte à 10,66 si on veut sortir une personne de la pauvreté 40 heures de travail par semaine.
Ça, c'est une revendication qu'on a beaucoup placée au courant de l'année. Puis tout le monde s'entend qu'il faut aussi se rappeler que la première augmentation de 50 sous qu'on a eue, on l'a eue comme promesse électorale. Là. Alors, ça n'a pas été un cadeau comme ça non plus. Là. Il a fait énormément de pression, là.
Ils n'en font pas beaucoup de cadeaux.
Non, même dans le temps des fêtes.
Comme nous, ben, 2007-2008, il y a eu une grosse campagne Mission collective Bâtir un Québec sans pauvreté, où là, la population a encore signé. Juste en Estrie, on a eu 10 000 signatures. Et il y en a eu près de 100 000 qui ont été portées le 14 mai à Québec. On travaille fort pour que le gouvernement fasse sa part. Là.
Pour connaître un petit peu le collectif pour un Québec sans pauvreté, je dirais qu'une de ses grandes forces, c'est justement son pouvoir de mobilisation des citoyens et des citoyennes. Parce que recueillir autant de signatures, c'est du travail, beaucoup de travail.
Et une force aussi du collectif, c'est qu'ils consultent la population. Mm-hmm. La proposition de loi avait été faite avec eux autres. Là, ensuite, on a demandé c'était quoi eux autres pour la population. Sortir de la pauvreté, qu'est-ce que ça voulait dire être pauvre et de nous dire qu'est-ce qu'il y avait besoin pour en sortir. Puis c'est de là qu'elle vient la pétition. Les revendications du collectif sont basées là-dessus.
Et c'était quoi les revendications? Qu'est-ce que la population avait dit qu'elle souhaitait?
Bien, que les personnes, l'augmentation du salaire minimum à 10,66, que les protections publiques montent à la mesure du panier de consommation, c'est-à-dire 13 472 pour qu'ils au moins couvrent leurs besoins essentiels et que les services publics restent universels et de qualité pour tout le monde.
Excellent.
Donc, est-ce que c'est une loi qui est vraiment respectée? C'est une loi qui est intégrée dans le gouvernement ou est-ce que si on change de gouvernement, il peut dire qu'on ne reconnaît pas la loi 112?
Non, ça, une loi, une fois qu'elle est faite, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent toujours la changer. Ça, je veux dire, un gouvernement peut toujours la changer, mais normalement, à date, en tout cas, il la respecte parce que ça a été mis sur pied pendant le Parti québécois et le Parti libéral, c'est lui qui a mis le plan de lutte en place. Et le deuxième plan de lutte s'en vient, là, devrait sortir en printemps, avril-mai cette année. Et il va y avoir encore une mobilisation qui sorte.
En parlant du deuxième plan de lutte, on sait que le 7 décembre, il y a eu une consultation publique à Sherbrooke.
Oui.
Concernant un plan, justement, de pauvreté qui a mobilisé plusieurs personnes. Vous étiez à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous glisser quelques mots sur cet événement?
Oui, à l'intérieur, on était quand même... Il y avait 27 à 30 organismes qui étaient présents. Il y en avait plus, mais on a vu qu'il y avait des places là, qui n'avaient pas été... que les personnes n'étaient pas venues. C'est sûr que nous, ce qu'on voulait, c'était demander nos revendications parce que ce qu'on considère, c'est que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est régionaliser les actes, les projets pour la lutte à la pauvreté. Nous, ce qu'on demande, c'est que c'est beau qu'il y ait des projets en région... Mais il faut qu'il y ait des normes nationales, comme le seuil, l'augmentation des chèques des personnes à l'aide sociale, les catégories, minimum. Salaire minimum, ça vient tout du gouvernement. Fait que là, ce qu'on a peur, c'est que le gouvernement se déresponsabilise en donnant aux régions la lutte à la pauvreté avec des projets. Puis fait que nous, c'est ça qu'on a essayé de parler devant le ministre, c'est qu'il fallait les revendications nationales en plus.
Peut-être expliquer aux gens, parce que la consultation s'est vraiment faite, si je ne me trompe pas, en deux volets. Hein. Il y a eu un premier volet national, justement, qui s'est passé en juin dernier. Comment ça s'est passé, ce volet-là? Comment les organismes et les mouvements sociaux ont réagi à cette consultation-là?
La consultation a eu lieu le 15 juin. C'est sûr que le cahier de consultation que le ministre avait envoyé, la consultation elle avait été demandée par les organismes puis par le collectif, parce qu'on disait que c'était aux personnes à dire ce qu'ils voulaient dans le prochain plan d'action. Sauf que le ministre, dans le cahier de consultation, il y avait déjà énormément de préjugés en partant. Fait, disons que c'était, puis c'était comme dirigé un peu là, sur ce qu'ils voulaient.
On veut lutter contre la pauvreté, mais seulement sur certains aspects. Alors, répondez aux questions précises. Où on a envie d'avoir des réponses.
C'est un peu ça. Fait qu'il y a des organismes nationaux, il y en a 9 qui ont sorti dans l'avant-midi pour s'objecter à la consultation. Et le collectif et une quinzaine d'autres organismes sont sortis dans l'après-midi après les plénières parce qu'on voulait faire passer notre message. Eux, ils ont sorti dans l'après-midi pour dire au ministre ben, qu'on n'était pas d'accord de la façon où ça se passait.
Une consultation publique, ça prend en considération ce que les gens ont envie d'exprimer et non pas nécessairement ce qu'on a envie de recevoir et d'appliquer comme plan d'action.
Puis, ce qui a été sorti un peu dans les plénières, c'était ça, c'est ce qu'on... En fin de compte, c'est un peu nos revendications qui ont ressorti. C'est mettre fin aux catégories à l'aide sociale, rehausser les prestations.
Attends un petit peu, Lynn. On va juste, peut-être, quand on va nommer une revendication, l'expliquer aux gens. On dit enlever les catégories à l'aide sociale, si je ne me trompe pas, tu me corrigeras si je me trompe, c'est qu'il y a comme deux catégories, c'est le cas de le dire, mais qu'il y a deux types de personnes à l'aide sociale. Il y a des gens qui sont aptes au travail, puis il y a des gens qui sont catégorisés comme étant inaptes au travail. Et les gens qui sont inaptes au travail, qui ont un handicap sévère ou une contrainte sévère à l'emploi, ont un chèque qui est d'une valeur un peu plus élevée. Je ne sais pas c'est quoi le montant exactement, là, mais ils reçoivent plus d'argent mensuellement que les gens qui sont aptes au travail. Et ça crée une disparité de traitement énorme. Pourtant, les besoins essentiels sont les mêmes. La couverture de ces besoins-là coûte aussi cher pour une personne que pour l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on maintiendrait une personne dans la pauvreté davantage qu'une autre? Quoique, la solution, c'est aussi d'augmenter les chèques de ces deux personnes-là. Mais en attendant, est-ce qu'on peut au moins enlever les catégories d'aide sociale? C'est-tu comme ça qu'on pourrait l'expliquer?
Oui, puis c'est aussi que l'histoire des catégories, c'est que ça met une étiquette au-dessus de la personne, donc des préjugés. Fait que, comme dans la loi, c'est marqué qu'il faut qu'il aide à la lutte aux préjugés. C'est loin d'aider quand tu mets des étiquettes au-dessus de chaque personne.
Il y a des bons pauvres, des mauvais pauvres.
C'est ça, des bons pauvres, des mauvais pauvres. Fait que les mauvais pauvres, on les en donne moins pour qu'ils aillent travailler. Puis les bons pauvres, comme on disait, là, eux autres ont plus pour couvrir. Puis même encore, ils n'en ont pas assez. Et ce qu'on demande, c'est d'ôter les catégories, mais de donner les besoins spécifiques aux personnes handicapées ou malades en surplus. Parce que c'est sûr que, tu vois, tu sais, ils ont des besoins qui est de plus. Mais ça viendrait à part. Ça serait par-dessus.
Intéressant. Puis d'ailleurs, les études démontrent clairement qu'une personne qui veut réintégrer le marché du travail, si on la maintient dans la pauvreté, ça ne va pas l'aider, là. Aller passer une entrevue, aller essayer d'être valorisé, d'avoir une bonne estime de soi, si on n'est pas capable de couvrir nos besoins essentiels, de se nourrir, de se loger, c'est une étape, une embûche de plus là, à notre réinsertion.
C'est parce que la personne n'est pas dans, excusez le mot, mending pour se chercher un emploi. Tu sais, je veux dire, quand tu ne sais pas si tu vas manger à la fin de la semaine, tu ne sais pas si tu vas être capable de payer ton proprio, que tu vas te faire couper ton téléphone ou que, ben là, tu...
Aller voir un employeur puis lui dire, c'est moi la meilleure personne pour toi que tu as besoin,
c'est
un embûche.
Puis la autre chose, c'est l'étiquette au-dessus de sa tête. Un employeur qui va voir une personne arriver qui va dire qu'elle était sous l'aide sociale, parce que tu n'as pas le choix, il te demande où tu étais, tu lui dis que tu es sous l'aide sociale, oh boy, ouais, il va avoir de la misère à se lever, il ne sera pas... Tu sais, fait en partant, ils ont un préjugé qu'il faut déjà défaire. Fait que...
C'est intéressant, je trouve, d'inclure ça dans le plan de lutte à la pauvreté parce que ça nous rappelle que le gouvernement a un rôle à jouer dans le fait d'enrayer, comment est-ce qu'on pourrait faire pour enrayer les préjugés. Bien, ce n'est pas juste en éduquant ou en faisant de la sensibilisation auprès des citoyens et des citoyennes. Ça va passer aussi par toutes nos politiques sociales et la manière dont ils sont appliqués. Et ça va avoir des retombées sur la perception des gens, la perception qu'ont les citoyens et citoyennes des gens qui sont à faible revenu. Là. C'est intéressant. On fait une dernière revendication, puis après, on va aller en musique, puis on va revenir après.
Bien, c'est ça, c'était de rehausser les prestations de l'aide sociale à 13 472. Bien, pas juste les prestations d'aide sociale, mais les protections publiques, les prêts et bourses, ce que les personnes s'ils n'ont pas 13 000 $ il faut combler à 13 000 $ parce que c'est ça que ça prend pour couvrir juste les besoins essentiels.
Excellent. Donc, sur ça, on va aller en musique. Peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va entendre.
C'est une chanson, si je ne me trompe pas, que David a fait en collaboration avec, est-ce que tu as le nom de la personne?
Jérôme Fortin.
Avec Jérôme Fortin.
C'est pas, eux, ils l'ont endisqué. Mais la chanson, elle a été faite par un groupe pour quand on est allé porter les signatures là, le 14 mai au gouvernement dans la mission dans la campagne Mission collective Bâtir un Québec. Et nous, on l'a fait en disque.
Donc, c'est ce qu'on s'en va en musique.
Vous allez voir que c'est sur l'air de Dégénération du groupe Mes Aïeux. Alors, on vous laisse écouter les paroles, c'est excellent.
De répéter les mêmes affaires. Quand vient le temps de parler de la pauvreté pis de la misère, vous autres, vous pensez qu'il n'y a pas grand-chose à faire pis que de toute façon, il y a les banques alimentaires. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Nous, de notre côté, on s'occupe de nos affaires. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est à votre tour de faire vos devoirs. Quand on regarde la société, ça fait dur, c'est effrayant. Le système de santé nous apprend à être patient. Puis l'éducation est rendue chère en sacrement. Un couplet, c'est pas assez pour dire comment c'est épeurant. Pas facile de se déplacer. Transports sont trop chers. Il fait fret au Québec, mais l'hydro remonte tout le temps. La moitié de mon revenu sert à payer mon logement. Les CPE sont bondés. Y a même plus de place pour nos enfants. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est à votre tour de faire vos devoirs. Vous nous dites d'être motivés, que le travail c'est extraordinaire. Juste des chiffres coupés de fin de semaine et puis de soir. Juste un job, c'est pas assez pour remplir son frigidaire. C'est impossible d'arriver quand t'es payé à bas salaire. Les personnes à l'aide sociale sont écœurées d'être préjugées. C'est pas juste avec une job que tu peux contribuer. Les pensions alimentaires, faut arrêter de les détourner. Assurer la dignité, c'est bon pour toute la société. Députés, venez voir comment on est solidaires. Vous pourrez pas continuer de faire plus de justice, plus question de se faire avoir. Faites-vous valider nos droits, on va les faire valoir. Et puis nous, citoyens, on propose les pas à faire pour contrer la pauvreté à travers tout le territoire. Nous, de notre côté, on s'occupe de nos affaires. Aujourd'hui, on vous le dit, c'est à votre tour de faire vos devoirs.
CFLX FM 95,5 CFLX.QC.CA.
Rebienvenue à l'émission La Complainte du Travail. On vous rappelle que le sujet dont on traite aujourd'hui, c'est la pauvreté, la lutte à la pauvreté pour être plus précise. Et on était justement en train de se rappeler qu'au mois de juin, il y a eu une vaste consultation qu'on catégorise comme étant bidon. Et il y avait quelques revendications de citoyens et citoyennes qui avaient été sorties. On a parlé des catégories à l'aide sociale, de rehausser les prestations. Qu'est-ce qui était ressorti d'autre de tout ça?
Il y a eu aussi éviter à tout prix les mesures coercitives de réinsertion sociale. Ça, si on l'explique vite, là, c'est juste parce que les personnes ont tellement, avec 500$, ils arrivent tellement pas qu'ils sont obligés de participer pour pouvoir manger. Donc, nous, on appelle ça, c'est forcé. Là. Avant ça, ça avait été ôté.
On dit souvent que les mesures sont volontaires, dans le sens où je suis à l'aide sociale ou je suis à l'assurance-emploi, puis je veux, on va m'offrir, si je le souhaite, d'aller faire une c'est vraiment pas court ce que je m'apprête à faire, là. Je vais essayer de faire ça simple. On en a parlé justement des mesures de réinsertion sociale, d'aller faire une mesure active d'intégration à l'emploi dans une entreprise, mais effectivement que quand tu n'as pas assez d'argent pour te nourrir, c'est plus volontaire, là. Ça devient obligatoire.
C'est ça. Puis il y avait construire davantage de logements sociaux, c'est sûr. Mm-hmm. Puis s'assurer de la participation des personnes en situation de pauvreté dans les consultations, c'est à eux autres que ça revient. Et que le gouvernement ne prenne pas prétexte de l'approche territoriale intégrée pour se désengager de ses responsabilités. En gros, c'est ça. C'est ce qui est sorti dans les plénières.
Tout à l'heure, tu en parlais, l'approche territoriale intégrée, c'est l'objectif du gouvernement de régionaliser la lutte à la pauvreté.
C'est ça.
C'est ça. Pour faire un parallèle avec le 7 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, on sait justement qu'il y a eu des consultations régionales. Nous, ils sont venus le 7 décembre à Sherbrooke. Il y a eu du monde à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce que tu veux expliquer les décisions qui ont été prises, pourquoi certains ont été à l'intérieur et d'autres à l'extérieur?
Bien, c'est sûr que nous, on a été invités à l'intérieur pour dire ce qu'on voulait, mais nous, ce qu'on voulait, c'était des revendications nationales. Mais on s'était dit qu'on trouvait que les consultations étaient plus ou moins correctes. On voulait aussi dénoncer le processus de la consultation. Donc, on a organisé des groupes dehors et ceux qui avaient été invités en dedans allaient dire ce qu'ils pensaient en dedans.
Donc, tout le monde n'était pas bienvenu, la liste était gardée secrète.
C'est en plein ça. Le gouvernement, le ministre, il n'a pas été clair. Ça, c'était pas transparent, la manière que c'était fait. Donc, puis lui, il axait énormément juste sur l'approche territoriale, tandis que nous, on disait, bien, ça prend les deux. Ça prend des projets en région, c'est sûr, mais ça prend des règles nationales aussi, là. C'est pas nous qui va régler ce niveau-là.
Par contre, les revendications portées par le groupe, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, étaient les mêmes, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Y avait-tu beaucoup de monde dehors? Ça s'est-tu bien passé?
Il y avait 150 personnes dehors. Ça s'est très bien passé. On a été couverts par les médias, certains médias, La Tribune, La Nouvelle, le Journal de Sherbrooke. En tout cas, il y a eu une belle présentation médiatique. Ça a été très actif aussi. Il y a eu un sketch. Il y a eu ce qu'on appelle du slam. Ça, c'est plus dur à expliquer un peu, mais c'est des poèmes un peu scandés.
Mais exactement. Ouais.
Puis il y a une émission de radio assez Félix, je me souviens plus c'est quelle journée, où est-ce qu'on entend justement Franck Poul avec son slam?
Bon, c'est justement lui qui est venu faire du slam. Il y avait eu un sketch aussi. Il y a eu une conférence de presse. Il y a la chanson qu'on vient d'entendre, que le monde a adoré. Puis ça, il y avait du café un peu, des sandwichs, là, de la soupe pour que le monde puisse se réchauffer. Il y a eu des slogans, naturellement, et c'est ça, il y a eu l'explication des revendications. Et, non, on a été très satisfaits de la couverture et de la mobilisation des personnes. C'est pour ça qu'on dit, là, je ne sais pas, parce qu'il y en a deux autres qui s'en viennent.
Inquiétez-vous pas, on va mobiliser nos troupes, on va mobiliser nos auditeurs, nos auditrices, nos membres actifs à Illusion Emploi, puis on va aller mobiliser, puis on va être à côté de vous dans notre lutte commune.
Si on parle pour en dedans, par contre, le ministre, je trouve qu'il a été un petit peu... Il a essayé de piéger le monde un peu, certains organismes, là, en revenant. Il n'a pas parlé souvent, mais quand il a parlé, c'était souvent pour plus piéger les personnes, je pense.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple?
Bien, justement, quand on a parlé des catégories à l'aide sociale, là, il nous a demandé si tout le monde viendrait au même montant. On a dit oui, sauf qu'il fallait couvrir les besoins spécifiques. Et lui, il est allé voir il a demandé à une personne handicapée parce que c'est sûr qu'entre les personnes handicapées avec contraintes sévères, tu sais, eux autres, ils ont un petit peu de difficulté avec l'idée des catégories parce qu'ils ont peur justement qu'on mette tout le monde égal, mais qu'on ne lui donne pas le surplus. Mm-hmm. Fait qu'il est allé voir la personne handicapée pour un peu me contredire. Et non, la personne, c'est ça, la personne a vraiment bien réagi, puis elle nous a dit que c'était pas ça le débat. Le débat, c'était qu'il y a des personnes qui s'appauvrissent, puis c'est ça qu'il faut s'occuper.
Intéressant. Parce que c'est même
une petite question comme ça, là, qui ça. S'est amusée à poser.
Dans ce genre de questions-là, c'est qu'on entretient le préjugé, là, de dire oui, mais comment vous, vous allez réagir et tout. Fait que je suis très heureuse que la personne ait réagi dans ce sens-là en disant même besoin, même lutte. Là.
Puis amener des préjugés aussi, là, quand on lui a dit que les personnes avaient 500 $ il dit ben oui, mais il dit, on a plein de beaux programmes, il dit s'ils sont actifs, ils vont avoir 200 pièces de plus, puis ils vont être capables d'arriver. Ils ont juste fait qu'en tout cas, c'était comme...
Tu regardes le salaire que lui a gagné, puis tu dis, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait ça, 700 $ par mois, là.
C'est ça. 500? Ouais, ouais, non, avec le 200,
c'est
ouais.
Ça, même avec le 200, on s'entend qu'à à 500, c'est vraiment inacceptable. Même à 700, c'est inacceptable, alors, ouais.
Donc, on voit que la pauvreté n'est pas juste économique. On voit que c'est aussi beaucoup de préjugés que les gens doivent vivre, de l'isolement, et...
Fait qu'il faut combattre aussi l'exclusion sociale. Mm-hmm. C'est la lutte à pauvreté et aussi l'exclusion sociale. Parce qu'une personne qui est exclue, souvent, elle va s'enfermer, elle va avoir des problèmes psychologiques, elle va perdre son estime d'elle. Fait que donc, il y a monétaire, mais ça aide aussi pour l'exclusion.
Mm. Et il ne faut pas agir seulement sur une des deux aspects. On ne peut pas juste lutter contre l'exclusion sociale, puis pas lutter contre la pauvreté. Puis, tu sais, il faut vraiment travailler sur les deux fronts en même temps, là, pour faire en sorte de tout enlever. C'est très intéressant comme questionnement et tout. En somme, vous êtes satisfait de la manière dont ça s'est passé le 7 décembre, de la mobilisation. Est-ce qu'il en reste d'autres, des consultations régionales à faire? Est-ce qu'on le sait?
Non, ils ont terminé vendredi passé. Okay. Le 11 décembre, c'était la dernière à Québec. Il y a eu un bilan fait par le collectif un peu là, des différentes consultations qu'il y a eu dans le Québec. Et là, ce qui s'en vient, c'est le dépôt du plan d'action.
À peu près quand?
Autour du avril-mai qu'on s'attend,
okay.
Qui devrait le faire.
Le bilan du gouvernement, nous, on sait c'est quoi le bilan, on l'a vu tout à l'heure, le bilan qu'on faisait de son premier plan de lutte à la pauvreté. Lui, le gouvernement en ce moment en place, est-ce qu'il en faisait un bilan positif de son premier plan de lutte?
Ah ben oui, lui, c'est sûr qu'ils ont...
Ils étaient très satisfaits.
Ils ont sorti la moitié de la population de la pauvreté, là.
Ouf!
C'est officiel qu'eux autres, là, toutes les règles qu'ils ont prises, même si ça n'avait pas rapport, ils les mettaient dans le plan de lutte puis dans le bilan qu'ils ont fait. Ils ont fait un très beau bilan.
OK. Alors ça, il faut faire attention. Et d'où l'importance de rappeler que nous, on dénonçait le manque de transparence, le fait que les citoyens et citoyennes n'étaient pas admis aux consultations, que tous les organismes étaient triés sur le volet. Hein. C'était pas... chacun des organismes n'avait pas le droit ou la place pour aller s'exprimer dans cette consultation-là.
Les personnes en situation de pauvreté n'étaient pas invitées non plus?
Non, pas besoin de...
Il y en avait une sur place.
Alors, on dénonce tout ça. On fait une petite... un petit bilan de tout ça, la lutte à la pauvreté?
Comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas lutter sur un seul front. La pauvreté n'est pas uniquement économique, mais elle est éradicable. La pauvreté, on peut l'éliminer, ça dépend des moyens qu'on prend.
Et de la volonté politique qu'on y met, effectivement.
Mais merci beaucoup, Lynn. Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin?
Comme on disait tout à l'heure, vous allez être mobilisés de nouveau au printemps, fait qu'il ne faut pas lâcher puis montrer au ministre qu'on est là.
Oui, et on ne le lâchera pas. On va le surveiller de très près. Alors, on vous rappelle que pour éradiquer la pauvreté, il faut une loi. Il faut une loi qui est appliquée. Il faut des droits des citoyens et citoyennes qui soient respectés. Ça passe entre autres par une fiscalité progressive, une fiscalité qui va être en faveur de la lutte à la pauvreté. Et on vous rappelle les trois principales revendications du collectif pour un Québec sans pauvreté. Le rehaussement des prestations universelles, c'est comme ça qu'on nomme ça?
Protection publique.
Merci, des protections publiques. Le maintien des services...
publics. Universelle et de qualité, et la hausse du salaire minimum à 10,66 pour cette année, à 10,66. Il faut que ça aille indexé à chaque année.
À chaque année. On vous rappelle aussi, on vous laisse sur cette note-là. On vous remercie d'avoir été attentif avec nous à l'écoute de l'émission La Complainte du travail tout au long de l'année. Je remercie spécialement Roxane de sa participation. Son stage se termine en succès. Alors, merci beaucoup, Roxane. Et on se revoit à partir de fin janvier à raison d'une fois par mois. Alors, ça va être vers la fin du mois. On va vous annoncer ça dans les prochaines semaines. Inquiétez-vous pas, on ne vous lâchera pas comme ça. Alors, d'ici là, bon congé des fêtes. Merci.